Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Tension persistante à l'Assemblée nationale. Une plénière est convoquée depuis 10 heures ce matin pour examiner les 6 pétitions contre le bureau Mabunda. Cela après 2 jours successifs d'affrontements entre les militants de l'UDPS et ceux du PPRD. Nous en saurons plus dans un instant. Plusieurs cas de violation des droits de l'homme enregistrés cette année dans le Haut-Katanga, avec plus de 820 personnes tuées. Révélation de la Commission nationale des droits de l'homme en cette journée internationale des droits de l'homme. Et puis Claire, décès doté d'un plan stratégique de lutte contre la corruption. Sa vision, renforcer l'intégrité et réduire la corruption. Ce plan a été présenté hier à Kinshasa par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Maître Ghislain Kikangala, son coordonnateur, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Palais du Peuple ici à Kinshasa avec l'examen et vote des pétitions contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 31 du règlement intérieur de cette chambre, la plénière prévue à 10 heures ce jeudi n'a toujours pas commencé. 2 heures plus tard, l'accès au Palais du Peuple s'avère difficile tant pour les députés nationaux que pour toute autre personne autorisée et beaucoup des députés sont encore bloqués en dehors de l'hémicycle en attendant la fouille de leur véhicule par la police, ce qui retarde le début de la plénière qui doit, en vertu des dispositions du règlement intérieur, examiner sans interruption toutes les 6 pétitions contre le bureau Mabunda. Michel Kifindangoy est sur place.
Conformément à l'article 31 du règlement intérieur, les pétitions contre Jeannine Mabunda, Boniface Balamag et Célestin Moussaou et les 3 autres membres du bureau devraient être examinées au cas par cas dans les 72 heures de leur notification aux concernés. La date limite étant donc ce jeudi, toutes les batteries sont déjà en marche pour que la plénière se prononce. Et c'est une plénière sous très haute surveillance de la police nationale congolaise. En effet, 4 barrières sont érigées avant d'accéder au Palais du Peuple. Tous les véhicules, y compris ceux des députés nationaux, sont fouillés systématiquement plusieurs fois et à chaque barrière. Il faut donc prendre 30 minutes à 1 heure pour accéder au Palais du Peuple. Dans la salle des congrès, plus de 200 députés, tant les pétitionnaires que ceux du FCC, y sont déjà installés. On signale aussi la présence de la présidente du bureau visé par les pétitions, Jeannine Mabunda, qui serait déjà prête à présenter ses moyens de défense au cours de cette plénière. Convoquée et présidée par le bureau d'âge, cette plénière se déroule sans interruption jusqu'au vote effectif de toutes les 6 pétitions.
Voyons à présent l'ambiance autour du Palais du Peuple avec Paul Matendo Mayamba.
Ici, au croisement du boulevard Triomphal et de l'avenue des Huileries, à quelques encablures du Palais du Peuple, plusieurs militants des partis politiques attendent le déroulement de la plénière de ce jeudi. Certains portent des drapés de leur parti, d'autres encore des banderoles sur lesquelles on peut par exemple lire « Je suis Congolais, la gloire de la RDC, c'est ma gloire ». Tout se déroule en présence d'un important dispositif de la police qui assure la sécurité et régule la circulation. Entre-temps, un communiqué officiel vient d'annoncer que l'accès au Palais du Peuple est uniquement réservé aux députés nationaux et aux journalistes accrédités. De l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasavubu, Paul Matendo, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette rencontre hier à Kinshasa entre la chef de la MONUSCO et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de l'entretien, Leila Zerougui a annoncé au chef de l'État la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de renouveler le mandat de la MONUSCO avant le 20 décembre prochain. L'échange a aussi tourné autour du nouveau format des effectifs des soldats onusiens concernant les questions de politique intérieure, notamment le changement au niveau de l'Assemblée nationale. Madame Zerougui a indiqué qu'il appartient aux Congolais de décider de la façon de gérer leurs institutions. La seule chose qui nous préoccupe, a-t-elle dit, est de s'assurer que cette situation ne perdure pas. Elle a émis le vœu de voir la situation politique actuelle s'est stabilisée. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a rappelé les défis majeurs qui attendent la RDC, notamment la gestion de la pandémie de COVID-19. Rendons-nous à Mbandaka. La fédération de l'UDPS Équateur 1 s'emploie à sensibiliser toutes les couches sociopolitiques. Objectif, l'adhésion massive au récent discours du chef de l'État et aussi solliciter le soutien de tous les Congolais pour la matérialisation des propositions émises par le président de la République. La campagne a été lancée hier au siège communal de l'UDPS Mbandaka et se poursuivra dans les médias locaux ainsi que dans des ateliers et conférences débats. Le président fédéral de l'UDPS Équateur, Jean-Claude Mbongo, explique ici leur motivation. Au micro de Paul Richard Malengela.
Nous sommes dans la joie parce que le président de la République a répondu à la volonté du peuple. Et cette vision, c'est la vision de l'UDPS. Nous ne pouvons que la soutenir. Ce qui nous reste maintenant à notre niveau, c'est la sensibilisation de toutes les couches de la population congolaise à adhérer à la vision du chef de l'État. Donc ce n'est pas un problème de l'UDPS. Ce n'est pas un problème de cash. C'est un problème de tous les Congolais. Je pense que le discours du président a été salué au moins à 80%, 90% de la population. Ce sont seulement nos frères du FCC qui restent un peu hésitants. Pas tout le monde. Je vous voyais même à l'Assemblée nationale. Donc pas tout le monde. Nous allons parler avec eux, nous allons discuter avec eux dans le calme et nous allons les exhorter à venir nous suivre par des conférences, débats, dans la sensibilisation, par-ci, par-là. Nous allons passer dans les quartiers, dans les cellules pour inviter tout le monde. À la presse même, nous allons multiplier des émissions pour faire comprendre à notre population, à nos amis qui restent encore hésitants, de venir nous rejoindre pour servir la population.
Entre-temps, dans la Tchopo, l'armée et la police sont appelées à demeurer apolitiques, loin des querelles politiciennes. Elles doivent se caractériser également par la discipline et l'amour entre les différents éléments qui les composent. Ces recommandations sont du commandant de la 31e région militaire, le général Benjamin William Balengele. C'était lors d'une parade mixte ce matin au camp sergent Kétélé. Jacques Moukonkolé, reportage.
Devant les différentes unités des FRDC de la police rassemblées à la parade mixte de ce matin, le commandant région a fait la restitution de la dernière réunion convoquée à Kinshasa par le commandant suprême de l'armée et de la police à l'intention des hauts cadres de ces deux corps. Le général William Benjamin Balengele a tout d'abord rappelé les motivations de l'organisation des consultations présidentielles avant d'appeler les hommes sous son commandement à la discipline et au respect de leur mission traditionnelle plutôt que de s'immiscer dans les querelles politiciennes. Ne vous laissez manipuler par personne, ni être tenté de vous écarter de votre mission, a-t-il souligné à l'attention de ses troupes. Restez fidèles à nos missions traditionnelles, celle d'assurer la protection des personnes et des biens, ainsi que de l'intégrité territoriale, a insisté le général Balengele Kazadi. Ces politiciens, disposant des propriétés immobilières et des comptes bien alimentés dans des pays étrangers, n'hésiteront pas à s'enfuir, vous laissant dans les pétrins, a prévenu le général Balengele Kazadi. Parlant enfin de leurs conditions sociales, le commandant région a déclaré que les autorités en sont conscientes et pourront y apporter des réponses idoines au moment opportun. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Autre nouvelle, nous vous le disions hier sur nos antennes, la police judiciaire des parquets a arrêté Walance Rajabou et Delphin Yonda, deux hauts cadres de la Direction Générale des Impôts DGI. Information tirée d'un communiqué de presse parvenu hier à Radio Kapi. Motif, ils auraient refusé de traiter volontairement et dans les délais légaux le dossier fiscal de Vodacom Congo. Ils ont été acheminés à la prison centrale de Makala où ils sont placés en détention provisoire. En réaction à cette information, Vodacom précise qu'elle ne dissimule pas ses recettes et que la procédure de contrôle est en cours, donc la police judiciaire ne peut pas parler d'une tricherie pendant que le contrôle n'est pas encore terminé, déclare le chargé de communication de Vodacom Congo, Albert Mboyo, est au micro de Jeff Ngoy.
Même de nous, l'idée d'entrer en guerre avec la police judiciaire, ou moins encore avec l'administration fiscale. Nous voulons seulement rappeler à l'opinion que Vodacom est une société citoyenne et qui entretient de très bonnes relations avec l'administration fiscale. Si nous nous référons à la publication des presse que vous avez passée pratiquement en boucle toute la journée, eu égard à l'année 2013, bien entendu, il y avait des contrôles qui avaient été faits au niveau de Vodacom Congo. Et Vodacom avait produit des éléments qui n'avaient pas été tenus compte par l'administration fiscale. Et après, on est passé en contradictoire et cela a été harmonisé et clôturé. Par rapport aux années 2014 et 2015, les contrôles ont eu lieu et ils sont toujours en cours. La procédure est toujours en cours. Et loin de nous, l'idée de masquer quoi que ce soit, donc tant que la procédure n'est pas finie, il est loin de dire que Vodacom a triché.
Du côté de l'Ituri, l'Assemblée provinciale annonce une enquête pour vérifier les allégations de détournement par le gouverneur de l'Ituri de plus de 314 millions de francs congolais. Décision prise mercredi lors d'une plénière au cours de laquelle Jean-Bamanissa Saïdi a répondu à une interpellation initiée par le député provincial membre de la Mouka Martyr Abéoja. Abéjoa, interpellation concernant des présumées créances auprès des entreprises brassicoles dont la Bralima et Brassimba, allégation que l'autorité provinciale rejette. Martial Kiza.
Cet élu du territoire d'Aro accuse le gouverneur des provinces d'avoir créé, je cite, des comptes parallèles pour faire fuir les recettes dites au trésor provincial. Fin de citation. Le député martyr Abéjoa parle depuis les 314 millions de francs congolais que des entreprises brassicoles auraient versés sur les comptes de la province, mais qui se retrouveraient logés dans un compte non officiel dans une banque commerciale à Kisangani, ajoute-t-il. Pour lui, cela pourrait être un détournement des derniers publics si ces accusations étaient avérées. Il justifie sa démarche.
Toutes les sommes versées par Bralima se trouvent comptabilisées dans les rapports de la DGRP. Une information totalement contraire à la première.
Des accusations que le gouverneur Jababarissa rejette à bloc. Il invite l'initiateur de cette interpellation à s'informer davantage avant de porter de telles accusations à son égard. Jababarissa Saïdi.
La DGRPI est informée des détails de l'accord car elle établit l'équitance après paiement. Et ces quittances existent bel et bien.
Après débat, la plénière a décidé d'initier une commission d'enquête qui aura pour rôle de faire la lumière sur cette affaire. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Célébration aujourd'hui 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. Dans le Haut-Katanga, la Commission nationale des droits de l'homme parle d'une augmentation des cas de violation des droits de l'homme dans la province. Depuis janvier dernier jusqu'à ce jour, elle dit avoir enregistré plusieurs centaines de personnes tuées par des bandits armés, parmi lesquels de nombreux hommes en uniforme. La CNDH évoque aussi des cas de viol liés à l'insécurité. Joseph Kongolo est le coordonnateur provincial de la CNDH. Il s'exprime au micro de Jean Gandou.
Plusieurs cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés, notamment violation de droit à la vie. Il y a eu plusieurs personnes tuées lâchement. C'est le cas de citoyens appelés Bakatakatanga qui ont été tués par le FARDC. Il y a eu aussi des personnes tuées par le fait de l'insécurité criante par de bandits armés, parmi lesquels, en grand nombre, on a identifié les hommes en uniforme. Et par rapport aux statistiques des personnes tuées dans les cadres de l'insécurité, en mélangeant ceux-là tués dans les cas de manifestation de Bakatakatanga, la CNDH a enregistré plus de 826 morts. Il y a eu plusieurs cas de viol, surtout liés à l'insécurité. Et au niveau de la CNDH, nous avons enregistré 56 cas. Et les auteurs durant cette situation, c'est notamment les hommes en uniforme et d'autres des civils.
À Boutembo, 50 dépendants des militaires ont été sensibilisés hier par le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. C'était en marge des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Cette activité avait pour objectif de ramener les épouses des militaires à jouer le rôle des conseillères auprès de leurs maris en matière de lutte contre ces différents types de violences. Écoutez à ce sujet Edmond Bonané, chef de la sous-coordination des Nations Unies pour les droits de l'homme à Boutembo-Lubero. Il est au micro d'Alicia Kapisa.
Boutembo et Lubero, ce sont des zones où les violences sexuelles sont de plus en plus récurrentes parce que nous sommes dans une zone conflictuelle. Le sous-bureau de Boutembo-Lubero, qui dépend du bureau de Beni, a pu enregistrer au moins de janvier jusqu'à ce jour une dizaine de cas de violences sexuelles dont les acteurs sont aussi bien les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, notamment les groupes armés. Les viols, c'est un crime imprescriptible. On peut dénoncer à tout moment. La justice congolaise est là, elle peut réprimer ces cas de violence sexuelle dans le but d'une meilleure promotion et protection des droits de l'homme. Nous savons que les militaires sont chaque fois dans les opérations et ils sont tentés de commettre des violences sexuelles. Ce sont les femmes qui peuvent souvent servir de conseil de leur mari. C'est dépendant des militaires. Ce sont des gens qui peuvent être victimes et nous savons également qu'ils ont une force pour dénoncer les cas de violences sexuelles. Lorsque le message a atteint la femme, ça atteint toute l'humanité.
signalant que ce bureau a enregistré plus de 10 cas de violences sexuelles depuis janvier 2020. L'actualité, c'est aussi la 6e édition du Forum économique du réseau Makutano qui se tient aujourd'hui au Pullman Hotel à Kinshasa sous le signe de Champions League. Les organisateurs tiennent à booster l'émergence des champions africains, ce qui justifie l'accroche de cette année. If you don't, we will. Entendez, si nous ne faisons pas, qui le fera? Analyser en profondeur les notions d'interdépendance de la RDC et de l'Afrique avec le reste du monde, c'est l'un des enjeux majeurs de cette édition qui se déroule en format réduit, réservé essentiellement à une centaine d'acteurs économiques et politiques de premier plan. C'est pour la première fois que ce forum se déroule en mode interactif via les plateformes Internet. Cela fait suite au contexte actuel de coronavirus.
Actualité internationale.
Nous sommes au Ghana. L'opposition dit ne pas accepter la victoire de Nana Akufo-Addo. Selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale hier soir, le président ghanéen a été réélu à l'issue d'un scrutin extrêmement serré. Son rival historique, John Mahama, ne s'est pas encore exprimé. Un élu de son parti a annoncé tard dans la nuit que l'opposition rejetait ses résultats et envisageait de faire appel de la décision de la commission électorale.
L'invité.
L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC a dévoilé hier sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption en RDC. C'était à l'occasion de la Journée internationale anticorruption. 26 pages, ce plan a pour objectif global de renforcer l'intégrité et réduire de façon significative la corruption à l'horizon 2030. Pour en parler, Radio Capi reçoit Maître Ghislain Kikangalangoy, coordonnateur de l'APLC. Il est avec Jeff Ngoy.
Ghislain Kikangalangoy, bonjour.
Bonjour.
Comment comptez-vous dénicher la corruption en RDC qui est comparable à l'infraction d'adultère?
C'est pas mal comme image, mais c'est pas pour rien que nous avons réfléchi une fois entrés en fonction, mon équipe et moi, quelle serait la meilleure stratégie pour combattre la corruption et les délits assimilés. Dans cet ordre d'idées, nous avons envisagé plusieurs actions, que ce soit à court terme ou à moyen terme, et nous avons ce plan qui fait, je crois, 26 pages, où nous déclinons toutes les options que nous prenons, et nous partons du principe aussi que le combat, c'est un combat de longue haleine, c'est pour ça que nous l'avons décliné sur 10 ans. Voilà. Et 10 ans, ça a aussi l'avantage d'être intemporel. Au-delà des mandats des uns et des autres, ça donne une perspective que l'on estime nécessaire pour lutter contre un tel phénomène qui est pourtant multidimensionnel.
Là, vous venez de présenter un plan stratégique. Quelles sont ces grandes articulations?
Nous plaidons pour que, au niveau de l'administration, par exemple, il y ait davantage de transparence, nous avons, par exemple, quand nous allons auditer certaines administrations, nous utiliserons un outil qui s'appelle l'indice de bonne gouvernance. Et cet indice de bonne gouvernance nous permettra d'évaluer, je dirais de manière objective, les performances de l'entité administrée et éventuellement de donner des remèdes si jamais elles sont insuffisantes. C'est détaillé dans le plan. Pour les auditeurs, je trouve que c'est mieux qu'ils aillent dans la lecture de cela. Plus de transparence, par exemple, nous attachons à faire en sorte que dans la vie publique, par exemple, la notion de conflit d'intérêts, la notion de le contrôle plus sérieux des déclarations de patrimoine, la notion de faire en sorte qu'en termes de transparence, l'administration soit consciente qu'elle est un service dû au public et donc qu'elle sache communiquer quand elle est interrogée ou que d'elle-même elle puisse donner des informations utiles à l'administration. Ce sont des actions en amont, donc de type préventif, mais ce sont des actions qui sont nécessaires. Parce que si on se concentre simplement sur l'aspect répressif, nous ratons ce que nous pourrions appeler les causes en amont de la corruption. Alors, au niveau répressif, nous avons des actions à court terme et des actions à long terme. À court terme, nous avons repris tous les dossiers de l'ancien conseiller spécial, monsieur le professeur Luzolo, et nous suivons attentivement ses enquêtes. Nous les avons relancées et bien sûr, nous avons accepté tous les nouveaux dossiers qui, dès notre entrée en fonction, sont arrivés. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous dénonce des faits. Alors, sur le long terme, justement, c'est cet aspect de vision à long terme que nous avons couché ici et qui consiste à faire en sorte qu'à l'horizon 2030, la corruption ne soit plus le problème endémique que nous connaissons ici.
Est-ce que vous intégrez aussi dans votre combat, dans votre stratégie, la dimension cumulée des fonctions qui est aussi dénoncée comme étant une des causes de corruption?
Oui, mais c'est ça la transparence. La transparence, justement, c'est que les gens qui auraient un comportement soit contraire à la loi, soit contraire tout simplement à l'éthique, soient redevables vis-à-vis de l'opinion. Les anglo-saxons appellent ça le naming and shaming. Donc je nomme les gens et je fais en sorte qu'ils aient honte du comportement qu'ils ont adopté.
Vous avez hérité côté de Luzolobambi, ce qu'il a eu à faire, ces dossiers restaient en suspens. Luzolobambi dénonçait la disparition chaque année de 27 milliards de dollars. Il semble que cet argent continue à être détourné. Comment comptez-vous récupérer cet argent?
Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est à la base de ce calcul-là. Parfois j'entends 15 milliards, parfois j'entends 5 milliards. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté de récupérer ce qui devrait être dans les caisses du Trésor public. C'est ça l'essentiel. Et chaque année, dans le rapport annuel que nous ferons au début de l'année, nous indiquerons les chiffres de ce qu'on a pu faire. Donc voilà, c'est une volonté claire, c'est notre détermination de faire en sorte que ce qui est dû à l'État revienne à l'État.
Et il existerait un cabinet qui organise la corruption en RDC à grande échelle. Et ce cabinet, ça fait plus de 18 ans, il existe toujours. Pouvez-vous l'identifier et dénicher les personnes qui sont en train d'entretenir cette corruption?
Il faudra me présenter les membres de ce cabinet. Moi, je n'ai pas eu connaissance en arrivant de...
Puisque vous avez tout hérité de Luzolo, et Luzolo a dénoncé l'existence de ce cabinet.
Ah, en tout cas, lors de la remise reprise, il m'en a pas parlé. Il m'a remis les dossiers qu'il avait. Nous les avons tous ouverts. Certains, malheureusement, il y a des questions de prescription. On ne peut rien faire. Mais même quand on ne peut rien faire, on peut trouver des éléments. Et je peux vous assurer que mon agence travaille dessus de manière discrète, bien sûr, mais déterminée. Et c'est clair que si des gens ont hérité de mauvaises habitudes dans le passé, il n'y a aucune raison qu'on leur facilite la tâche en fermant les yeux là-dessus. Soyez assurés qu'on y va. Je dis souvent, quand on parle de notre action, je dis souvent ceci. Si au terme de notre mandat, nous arrivons à faire en sorte que le compatriote hésite avant de poser un acte de corruption, c'est que quelque part on a réussi notre mission. Parce que pour le moment, non seulement on n'hésite pas, mais à la limite on s'en vante, quoi. Donc voilà.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Guilain Kikangala Ngoy, coordonnateur de l'Alliance de prévention et de lutte contre la corruption, s'entretenait avec Jeff Ngoy. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta, Ben Kabambala supervisé, Willem Lungamba la mise en onde et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci.